Avec les Fralib, la victoire de la générosité et de la fraternité. Première partie. ...1336 jours de lutte et une très belle victoire. Les Fralib de Gémenos se sont battus pendant tout ce temps contre la multinationale Unilever pour conserver leur usine et leur machine de conditionnement de thé et d'infusion. La victoire est belle, avec un accord historique où Unilever lâche 20 millions d'euros, mais pas la marque éléphant. Les Fralibiens et Fralibiennes se passeront désormais de patrons. Reportage. Le 4 juillet 2014, à l'occasion de la grande fête de lancement de la société coopérative ouvrière de production, Scopti, à l'usine Fralib de Gémenos.
Aujourd'hui, c'est la victoire. Ils ont décidé de faire ça ce vendredi 4 juillet. Donc, on est venu faire la fête avec eux.
Et qu'est-ce qui t'a amené à être solidaire, du coup, depuis toutes ces années ?
Je suis animateur du comité chômeur de CGT de Salon de Provence. Ben, ils ont évité le chômage, quoi. Et ça, c'est une belle chose, je pense que c'est une belle chose. Et ça devrait faire réfléchir tous les camarades qui sont dans des plans de licenciement ou qu'il y a un autre moyen de sauver l'emploi que d'accepter la prime de licenciement et de partir en laissant l'outil de travail, quoi. Et je pense que là, ils nous ont fait voir que la réappropriation des moyens de production était possible.
Moi, je pense ou peut-être d'attendre le providentiel Messi qui viendra racheter la boîte, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont dans des plans de licenciement qui attendent ça et qui prennent pas conscience de la force collective qu'ils peuvent avoir.
Voilà, c'est ça, tu as résumé le truc, c'est-à-dire que à un moment où on a à s'affronter comme là sur Fralib à un monstre comme Unilever, on se dit qu'on est petit et que rien n'est possible, et en finalité, ils ont fait la démonstration que c'était possible, quoi.
Merci Philippe.
Et puis, pas de quoi, plus tard. Bon, à vous, bon courage.
À plus tard, ouais, merci.
On peut vous poser quelques questions pour Radio Zinzine.
Allez-y, je vous écoute.
Voilà, alors vous êtes Fralib ?
Oui.
Voilà, vous travaillez depuis combien de temps dans la...
Ça aurait fait pour Fralib 40 ans en septembre de cette année.
D'accord, donc c'est votre seul travail en fait,
oui,
pratiquement.
Oui, je suis rentrée en 1974.
D'accord. Et lundi, il n'y a plus de chef ?
Lundi, il n'y a plus de chef ? Non, lundi, on est tous les chefs.
Alors, comment vous allez vous organiser ?
On a fait des groupes de travail.
C'est déjà prévu, donc ?
Oui, c'est déjà prévu. On a fait des groupes de travail par rapport aux technologies, par rapport à notre savoir.
Oui.
Voilà.
Donc sur chaque opération de l'entreprise.
Déjà, on s'est mis sur les postes que l'on avait avant.
Oui.
Et puis après, de toute façon, dans une scope, on est amené à tout faire. Donc, pour le moment, on s'est mis dans les postes que l'on avait avant. Et puis après, s'il faut aller faire le reste, on fera le reste.
Ça va changer beaucoup de choses pour vous, à votre avis ?
Ah ben oui, hein, déjà on va travailler pour nous, donc déjà ça va être différent. Oui, je pense, hein. Je sais pas, c'est nouveau pour nous.
Les décisions vont se prendre comment, au niveau de l'atelier, au niveau des différents...
Il y aura des conseils d'administration, hein. On va élire un conseil d'administration où il y aura un groupe de personnes et on prendra des décisions, mais après ça se prendra quand même en assemblée générale.
Voilà. Mais après, il y a des petits problèmes à régler au niveau d'un atelier ou d'un...
Ah ben oui, on va rencontrer des problèmes, mais voilà, il y aura des réunions, donc ça se gérera comme ça.
Voilà, bon,
je pense, hein, parce que c'est la première fois, on innove. Hein. Moi, j'ai travaillé 40 ans pour Fralib, pour Unilever, donc aujourd'hui, on innove.
Oui, mais
pour nous, c'est...
Et vos trois dernières années, vous les avez vécues comment ? Donc, les trois années de lutte.
Il y a eu des hauts et des bas. Ouais, on ne va pas dire que tout a été rose, parce que tout n'a pas été rose. Mais aujourd'hui, on est heureux d'être là où on est et fiers de ce que l'on a fait.
Voilà. Est-ce que vous avez pleuré pendant ces trois ans ?
Oui, ça nous est arrivé. On a rigolé,
vous,
on a pleuré.
Je veux dire,
moi, personnellement, Oui, je pense que j'ai dû pleurer. Je sais pas.
Et même ceux qui travaillaient pas pleuraient aussi. Voilà. On a pleuré. Moi, chaque fois que
je sais pas.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils travaillaient pas, qui ont quitté l'entreprise?
Non, mais nous, on était venus faire les assises du communisme.
Ah,
voilà,
d'accord.
Comme ça.
Ah, ok.
Ah, et puis après, nous,
comme
on
est bêtis.
Ah, on pleurait pour vous?
Ah,
ben oui,
oui,
qu'on pleurait pour vous.
Je comprends mieux.
Et l'autre soir, moi, c'est François qui m'a téléphoné,
oui,
à je sais pas quelle heure, quand il allait comme ça. Alors. Eh bien, moi, ça m'a fait pleurer. J'étais dans mon lit, j'ai pleuré. Puis lui, il pleurait au téléphone. Et puis après, on a appelé, il y a Chantal, tout ça. On pleurait tous comme ça. Là.
Ah, quand on a gagné.
Oui, oui, ben,
ah,
le soir même, là.
Ouais.
Oh, j'ai dit,
ah,
j'ai
oui,
dit,
ce jour-là, on a tous pleuré.
J'ai dit, tu sais, si entre 7 et Gémenos, s'il y avait un peu moins de kilomètres, je partirais tout de suite. Ah oui, ça m'avait donné envie de bondir, je sais pas quoi faire.
On va venir peut-être sur une question plus pratique, puisqu'on arrive à l'accueil de l'usine. Avec vous, juste comment ça se passe aujourd'hui pour cette journée, pour cet après-midi? Oui, le programme, qu'est-ce qu'on...
Ben, il a démarré à 14h. 14h, il y a visite de l'usine jusqu'à 17h. 17h, il y a le meeting. De toute façon, il est affiché là, le programme.
Ouais, ouais.
Hein. Je ne connais peut-être pas par cœur, moi non plus. À 17h, le meeting. Après, il y a les concerts de Los Pralibos. Il y a la scène de jouée par Los Teatros. Qu'est-ce qu'il y a voilà, et après,
ah
repas dînatoire, apéritif dînatoire, jusqu'à pas d'heure. Aujourd'hui,
super,
c'est la fête.
Super. Où est-ce qu'on se présente pour la visite de l'usine? Parce que nous, ça nous
là,
intéresse.
Voilà.
Là où bon, je suis, je bouge pas. Alors, je ne bouge pas.
La dame fait les groupes
d'accord,
de 10 et après, elle va vous diriger vers la personne qui vous fera visiter l'usine.
Nous, ça fait 3 ans qu'on lutte. 3 ans qu'on lutte, on en a vécu pas mal. On a eu à un moment donné, été obligé et contraint de prendre notre cousine parce qu'il voulait la déménager.
Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant. Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant.
Cet horizon, cette maison, elle est à nous.
La Sainte Pomme et son étoile veille sur nous.
Pensait-il vraiment qu'il pourrait nous mettre à genoux?
Force et bonté, usine hantée, toujours debout.
Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant. Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant.
Là où tu es né, là où tu restes, en Provence.
Là où tu infuses, là où tu diffuses, partout en France.
Ces ouvriers, sans ta mémoire, ta renaissance.
Est-ce que tu entends leur cri et leur chant?
Résistance. Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant. Los Pralibos, l'éléphant.
Ils voulaient t'envoyer au cimetière, contraint et forcé.
Ils pensaient faire loi sur cette terre, ils ont oublié
que l'éléphant obstinément n'est pas sans défense.
Est-ce que tu entends son barissement?
Résistance. Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant. Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant.
Plus de 100 ans que tu délivres cette fragrance.
À ta santé, toi éléphant de notre enfance.
Et dans 100 ans, ceux qui viendront à Gémenos
pourront encore sentir l'odeur du thé
des Pralibos. Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant. Los Pralibos, Los Pralibos, l'éléphant.
envoyer trois miliciens armés et des Golgothes venus des pays de l'Est pour frapper sur les salariés de Fralib qui défendaient leur outil de travail. On s'est fait frapper sur la gueule, nos fans se sont fait frapper. La gendarmerie n'a pas bougé. On nous a expliqué qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce que c'était une boîte privée. Les voyous, si vous voulez les chercher, venez avec nous, on va vous les montrer.
Jean-Jacques de Radio Zinzine, et vous appelez ?
Sassou Raymond.
Et vous travaillez ici depuis ?
20 ans.
20 ans. Et vous êtes contente ?
Ah oui, oui, oui. Ben, je me suis battue pour rester ici.
Oui.
Voilà. Sinon.
Et ça a été la lutte, est-ce que ça a été dur financièrement, pardon ?
Très, très dur. Financièrement, moralement, ouais. Ouais, la famille et tout.
Parce que vous avez été licencié, en fait.
Ah oui, oui. Ouais, ouais.
Carrément, oui.
Carrément.
Mais vous avez continué à lutter.
Ah ben oui, il fallait.
Ah ben il y a Jean-Marc alors, il y a Jean-Marc aussi. Tu comprends un peu ?
Ouais, j'en prends aussi pour ça, mais je cherche les gens justement.
Bon, alors on va faire la visite de l'usine. En compagnie de Jean-Marc, je pense.
Il y a d'autres personnes. Ça dure 1h30 la visite que je viens de faire.
Ah ouais ?
Oh, mais tu as été loin. Les gens te posent des questions.
Ben là, il va y avoir encore deux. Ben il faut les faire entrer.
Ouais, parce qu'après, on va trouver juste dans le talent.
Ouais.
Nous, on a plein de questions à vous poser. Vous êtes Jean-Marc, c'est ça ? Pierre de Radio Zinzine, bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas de nous proposer cette visite et de nous accueillir chez vous aussi. Parce que maintenant, c'est chez vous.
Ah oui, c'est chez nous. Depuis,
c'est chez nous. C'est vrai qu'il y a
longtemps. Été chez nous, de toute façon.
Depuis combien de temps vous sortez chez vous ?
Depuis le début, de toute façon. Dès qu'ils ont annoncé la fermeture, de toute façon, on leur a dit que c'était chez nous. Il n'y avait pas un boulon qui sortirait de cette usine, et il n'y a pas un boulon qui est sorti de cette usine. Hein. On leur avait dit dès le départ, de toute façon. On a tout fait pour. Hein. Voilà, ouais.
Ça a été chaud ?
Oui, ça a été chaud. Les deux premières années, ont été 2010, 2011, 2012 même. Ça a été très difficile, quoi. S'ils avaient mis le paquet, quoi, pour nous mettre dehors, hein. De toute façon, nous, on savait très bien que si on perdait notre outil de travail, on était mort. Donc,
il y a eu des affrontements physiques.
Oui, ils ont mis des gardes du corps à l'entrée. Un matin, au mois d'octobre, je crois que c'était en 2011, je sais, il me semble. 2011, je crois. À 7h le matin, le directeur est arrivé avec une trentaine de gardes du corps. Ils ont mis devant la barrière pour nous empêcher de rentrer. Mais nous, on surveillait déjà les machines parce qu'il y en a qui dormaient dans l'usine. Donc quand ils ont vu ça, ils nous ont appelés. Forcément, on est tous arrivés à 7h le matin. Ils étaient tous à l'entrée, un peu partout dans l'usine pour éviter qu'on passe de l'autre côté. Ils nous ont empêchés de rentrer. Donc nous, on a voulu rentrer, c'était notre usine. Donc on a commencé à pousser pour pouvoir rentrer. Et à partir de là, ils n'ont pas hésité à nous taper dessus, oui, bien sûr. Et malheureusement, je crois qu'elle est partie à l'hôpital, elle a fait un malaise. Les pompiers sont venus, il y a une femme qui a pris une droite de chez nous. Ils n'ont pas hésité à nous taper dessus, oui, bien sûr. Et on a réussi à rentrer, on a récupéré l'usine. Et un bon matin du mois de mai, l'année qui suivait, on les a mis dehors à 4h du matin. On les a tous virés dehors.
Ah oui ?
Ouais, on est venu à 4h du matin, tous en Europe.
Donc, qui, il
Nous, avec de l'aide, forcément.
Vous avez mis dehors l'administration.
Les gardes du corps, qui ? Parce qu'ils mettaient les gardes du corps à 6 jours et nuit pour garder l'usine.
Les ouvriers qui veillaient, mais aussi des...
Ah, j'étais pas seul, il y avait les gardes du corps qui veillaient aussi. Quoi.
Et vous avez mis dehors comment ?
Bon, on était arrivés, on était plus de 200, ils étaient que 6 la nuit, donc ils n'ont pas eu trop le choix de sortir dehors.
Oui, ils sont partis.
Ils n'ont pas trop résisté, on va dire.
Et vous avez tout verrouillé.
Et à partir de là, on a tout verrouillé, ouais, voilà. À partir de là, on a surveillé l'usine pendant quelques mois, parce qu'ils sont revenus à la charge, forcément, hein, donc ils n'allaient pas nous laisser. Pour eux, c'était une défaite, donc ils n'allaient pas nous laisser comme ça.
Et c'est donc parti pour la visite de l'usine.
J'ai ouvert la main parce qu'il n'y a pas l'air. Non, normalement, ça se fait automatique, hein, mais là, on a coupé l'air, donc le compresseur se prend.
Belle machine. Donc ça, c'est la machine d'ensachement.
Voilà, c'est celle-ci, c'est la Constantin, on appelle ça la machine Constantin. Elle tourne à 170 coups minutes. Vous allez voir le sachet, c'est le sachet qui est comme ça, voilà, avec des agrafes et tout. Normalement, on gratte après. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette machine. Voilà. Ça. Vous allez voir sur d'autres machines qu'on va aller voir après, les sachets sont. Celle-ci, il y a une tête, il y a un agrafe. Les machines qu'on va aller voir après, les C2000, il n'y a pas de tête, c'est sachet beaucoup plus simple et pas d'agrafe. C'est des vieilles machines, celle-ci elle date de 1975, je crois que la plus vieille est de 1958. C'est que par pignon derrière, c'est que par pignon. C'est vraiment la mécanique, vraiment la pure mécanique. Donc, vous allez voir. Donc voilà, le sachet, pardon, là, c'est le rouleau en fait. Là, qui est là. Ici, c'est la, le thé qui va descendre dans la trémie. Il y a la doseuse qui est ici, qui va répartir les doses de thé chaque côté du sachet. Qui va arriver, voilà, on peut voir, il y a une dose de chaque côté du sachet. Lui va couper le sachet, lui va descendre pour faire le sachet. Voilà, lui va former la première tête, on appelle ça la pioche. Et lui, la seconde tête pour pouvoir l'agrafer à ce niveau-là, quoi. Lui va couper le fil coton, il y a un bras qui va sortir de derrière, mais là je sais pas si on va le voir comme ça. Voilà, qui attrape le fil pour que lui puisse le couper quoi en fait. Bon lui c'est un capteur, si jamais il n'y a pas de fil, le sachet se trouve éjecté. C'est possible que le fil casse, donc lui c'est tout simplement un capteur. Ensuite il y a une pince là, qui va attraper le sachet, qui va la mettre ici dans la roue de renversement ici. Lui va tourner et cette pince là va descendre le sachet dans l'enveloppe en fait. Et ensuite agrafer. Bon là c'est tout le groupe 9 qui va couper l'enveloppe à une certaine. Ensuite qui passe dedans, le sachet est sorti de chaque côté. Voilà, celui-là comme on peut voir elle est ouvert. Une fois qu'il passe dedans, le sachet est fermé de chaque côté. Voilà. Ici c'est le groupe 44, donc les sachets. Bon là il n'y a pas d'air, donc malheureusement les sachets peuvent remonter, mais les sachets montent ici. Il y a un capteur ici qui va compter les sachets. Au bout du 9e sachet, lui va se lever. Il va descendre le sachet, la boîte de 10 sachets dedans. Voilà, ce qu'il fait comme ça. Ici, c'est une balance. Si par exemple, il y a 9 sachets, la boîte, elle va passer, mais elle va se trouver éjectée à ce niveau-là. Voilà, c'est une balance, quoi. S'il manque un sachet ou deux, c'est ce qui peut arriver. Et sinon, si le poids est bon, c'est par rapport au poids, je ne sais plus c'est combien de grammes sur celle-ci.
La machine date de quelle année ?
Celle-ci, elle date de 75. La plus vieille, on va aller voir, je crois que c'est 58. La plus vieille. Et c'est que par opinion, voir derrière, c'est vraiment pure mécanique. Mécanique, pure mécanique, c'est ça.
Ouais, t'as vu, il reste tout en place hein, sur les machines. Il y a encore les rouleaux, les rouleaux de sachets prêts à emballer, éléphants, les marqués éléphants, les tonnes et tout. Et il va falloir qu'il se retrouve une nouvelle marque parce que Unilever a refusé de lâcher la marque éléphant.
Il faut savoir ici qu'une boîte, quand elle sortait de la machine, ça leur coûtait, masse salariale comprise, 15 centimes d'euros.
La boîte.
La boîte.
Ouais,
masse salariale comprise dedans.
3-4 euros. Oui, j'ai bien entendu ça.
Donc dans le commerce, vous la trouvez entre 1,80€ et 2,60€.
Marchait
pas mal.
Ouais. Voilà.
On travaillait 4 mois dans l'année, tout était payé. Ouais. Et les 8 mois, c'était pour engraisser les actionnaires. Voilà. En 4 mois, on avait tout fini, payé, c'est emballage, salaire, tout ce qui s'ensuit. Et le reste. Et le salaire, c'était que du bénéfice, les 8 mois qui restaient. Donc la boîte, elle leur coûtait 15 centimes d'euros, on la fabriquait en Pologne, ça leur reviendrait à 9 centimes d'euros. Bénéfice de 6 centimes d'euros par boîte. Mais par millier de boîtes, c'est certainement énorme pour eux, quoi, je pense.
Dans le transport et tout ?
Et voilà, le transport, non, certainement, parce que ça passe, le transport il est beaucoup plus important. Parce que l'éléphant, la marque éléphant, elle est vendue qu'en France, comme je vous expliquais, elle est fabriquée en Pologne, mais vendue qu'en France. Donc au niveau du transport, au niveau de la pollution, l'environnement, c'est sûr qu'on
donc
est.
Donc vous allez travailler que 4 mois par an maintenant ? Ce sera mieux que les 35 heures alors.
Même moins, 32 ou 30.
Parce
qu'ils ont une petite usine en Pologne, ils n'avaient pas les machines, donc, puisqu'elles étaient ici.
Ça a été fait bien avant, l'usine en Pologne. Hein. Ils ont commencé à la monter en puissance. L'usine a été montée il y a peut-être une dizaine d'années, je ne me trompe pas. Après, ils l'ont montée en puissance au fur et à mesure. Quoi. C'est pour ça qu'ils voulaient récupérer ces quelques machines de chez nous pour pouvoir les rajouter là-bas. Quoi. C'est pour ça qu'on s'est... Voilà, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils l'ont monté en puissance.
Les machines et le bâtiment qui avait été racheté par le
comité urbain.
C'est bon, c'est calé ça.
C'est bon, c'est la comité urbaine, ça leur appartient, ça a été racheté pour 5 millions d'euros.
Et leur mettre à disposition, c'est pas.
Mais même rien que sur le prix du terrain, entre le terrain et les bâtiments en Pologne et la revente des terrains ici, ils allaient faire une grosse
ça
économie.
Va, le prix des machines, quand même, ça leur revient quand même. Ça a été estimé à 7 millions d'euros quand même.
Mais en réalité, ils n'ont jamais été propriétaires d'ici des terrains, des locaux.
C'était en location.
Ils payaient un loyer. Hein. Non, non, ils n'ont jamais
été. Et ça appartenait à qui, le terrain ?
Un propriétaire.
Il louait ça, c'était...
Il a vendu à la culture.
Je ne pas, c'était dans les 500 000 euros par an qu'il payait.
Bah, ils étaient que locataires.
Ils étaient que locataires, ils payaient un loyer de 40 000 euros par mois.
C'est ça, les locataires.
C'est ici qu'on reçoit des produits de l'extérieur. bien souvent, quoi. Donc il y a des analyses qui ont été faites auparavant et d'autres qu'on a fait à l'heure actuelle à l'intérieur de ce laboratoire. Donc nous, on fait des mélanges aussi. À chaque étape, il y a une procédure et elle est quantifiée sur des documents. Là, le tilleul, celui-ci, vient de l'huile baronnie. Là, on a deux sortes de thé. Toute procédure, il y a la qualité qui est en jeu, aussi bien en amont qu'en aval. S'il y a un défaut critique majeur, aussitôt, on prend des précautions. C'est le laboratoire qui fait les démarches auprès des clients, auprès des fournisseurs. Tout est contrôlé, quoi. Aussi bien les opérateurs, opératrices, que mécaniciens, que laboratoire. Une fois qu'un produit est mis en place, il a été déjà analysé, mais en deuxième temps, il sera encore analysé et dégusté. Tout le long de sa procédure, on a une traçabilité. C'est tout mentionné. Les opérateurs, opératrices, toutes les demi-heures, ils font des contrôles qualité. Et mis à part ça, nous, au laboratoire, tous les jours, on récupère des boîtes de toutes les machines et qu'on met dans un coin. C'est notre traçabilité. La traçabilité, elle dure 2 ans. Quoi. À tout moment de l'année, on peut venir nous demander. Voilà. À l'heure actuelle, quand on a produit les boîtes militantes, on a fait le même procédé. On n'a pas été très léger, on a été assez costaud, parce qu'on se dit qu'Unilever pouvait acheter nos boîtes, même que c'est des boîtes militantes. Et donc, on a une traçabilité. Voilà. On a toujours travaillé avec des gants, toujours comme on travaillait auparavant. Et ce qu'on compte faire, d'ailleurs. Au niveau de tout ce qui est laboratoire, c'est-à-dire les audits, au niveau tout ce qui comprend tout ce système-là de l'agroalimentaire, on sait faire parce qu'on a fait et on a toujours procédé comme ça. Pour nous, ce n'est pas un souci. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir aller voir dans des boîtes extérieures pour qu'ils viennent nous apporter ce fameux papier.
Il est séché ici ou parce que là,
Non. Quand on l'a récupéré, c'est eux-mêmes qui l'ont fait sécher. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que nous, auparavant, des années de ça en arrière, 20 ans peut-être plus, nous, on le faisait sur place. Nous, tous les produits, on ne faisait que des produits naturels. C'est nous qu'on avait une... D'ailleurs, tout à l'heure, le copain, il vous en parlera. On avait une coupe, une ligne de coupe, voilà quoi, qui permettait de mélanger nos produits et tout ça. Et avec les années, ils ont décidé de mettre des produits chimiques, tout simplement, pour diminuer et pour augmenter la production quoi, et la marge.
Et la marge.
Voilà. Alors nous, ce qu'on souhaiterait, c'est faire des produits plus naturels, quoi. Voilà. Et faire travailler nos régions et les paysans et l'agriculture. Voilà, ça c'est le producteur. Mais c'est vrai qu'on pourrait, à l'heure actuelle, ramasser du tilleul et on a des zones qu'on pourrait faire sécher.
Elles sont toujours opérationnelles, les machines, vous les entretenez ?
Ouais, voilà, on les entretient, on va essayer de les refaire tourner, bien sûr. Après, on peut très bien faire autre chose que du thé, on peut faire du café, pourquoi pas, du chocolat, on sait jamais. Donc on sait jamais, tout dépend le contrat qu'on veut récupérer. S'il y en a qui veulent peut-être qu'on fasse, on sait jamais, du café, pourquoi pas essayer de faire du café là-dessus, comme on a la machine déjà.
Oui.
Le bouquet garni pour les épices,
par exemple, bien sûr.
On peut changer le poids
qu'elle donne. Ouais, bien sûr, le dosage, c'est nous qui le mettons, quoi, le dosage, de toute façon.
Mais par contre, cette machine, elle peut faire que des sachets ronds comme celui-ci.
Voilà, ça, c'est machine.
On peut pas lui sachets. Faire faire autre chose.
Que sachets ronds, comme les autres machines, c'est tous ces mêmes sachets qu'on peut faire. Et si on n'a pas les dernières technologies qu'ils ont sorties, c'est les pyramides. Vous avez dû voir vraiment en commun. Ça, forcément, ils n'allaient pas les mettre ici, vu qu'ils allaient fermer une usine. Donc, c'était mis en Pologne, c'est vrai. En Belgique aussi.
Vous avez compris, il ne faut pas acheter des pyramides.
Voilà. Surtout que c'est que du produit chimique qu'ils nous mettent dedans. Donc, c'est des arômes chimiques qu'ils nous mettent dedans.
Qui est avec tout maintenant.
Voilà, avec la vapeur, enfin avec l'eau chaude qui diffuse leur parfum, quoi, tout simplement. Et on va aller voir les cartons après.
Il y a moins de produits.
Non, vous allez voir sur les cartons ce qu'il y a de marqué, c'est pas rassurant pour le consommateur. Ouais. On est prêt à démarrer, si demain on nous demande de démarrer, on est prêt à démarrer sur certaines machines. Donc on va aller là, c'est en fait, ça s'appelle l'aromatisation. C'est là qu'ils faisaient les mélanges avant, quand on faisait nous-mêmes le vrai thé, quoi, en fait. Ils faisaient les mélanges ici, quoi, en fait. Donc voilà, c'est un rangeur de vis sans fin qui tourne en haut pour mélanger. En fait, on faisait les mélanges nous-mêmes avec des vraies feuilles avec des écorces d'orange, de la vanille, tout ça. On faisait nous-mêmes tout ici, quoi. Donc ça s'appelle l'aromatisation aussi.
Dans les dernières années, Unilever, c'était en jachère ici. Ça ne servait plus.
Ça ne servait plus, non. Si, on faisait quand même, on mélangeait seulement le thé, mais plus les arômes. Enfin, on mélangeait les arômes, mais c'était des produits chimiques qu'on mélangeait, quoi. C'était plus les vraies plantes, quoi. Ça servait qu'à ça. Parce qu'en fait, à l'époque, moi, j'ai pas trop travaillé ici, mais à l'époque, ça faisait avec de la vapeur. Ils mélangeaient avec la vapeur et tout, quoi, pour faire les mélanges au niveau des plantes et des arômes et tout, quoi. Après, non, c'était beaucoup plus facile, ces arômes liquides. Donc, il y avait juste une vis sans fin qui les mélange et puis c'est tout, quoi. Bon, je vais vous faire voir les cartons de produits chimiques, vous allez voir. Une fois que le mélange est fini, ça allait dans les gros sacs, des big bags, on appelle ça la big bag de 500 kg, là, blanc, quoi. Celui-ci est vide, mais voilà, le thé descendait là-dedans et c'est des gros sacs de 300, 400, 500 kg, ça dépend ce qu'on faisait. Quoi. Donc ça, c'est les arômes chimiques, quoi. Si je me trompe pas, ici, c'est du citron. Voilà, c'est ce qui mélange. Vous sentez, c'est...
Ah, donc une espèce de poudre orangée,
voilà.
Quoi.
Voilà, avec quand vous mettez l'eau chaude dedans, ça se diffuse, ouais, forcément, le... mais c'est du chimique. Ouais. On voit bien, c'est dangereux pour la peau. Juste pour les poissons, c'est dangereux. Ouais. Nous, on a le droit de le boire.
Ouais.
Ouais, ça, c'est des boîtes de fer, mais moi, on peut pas y aller parce qu'ils ont bouché pour la sécurité. Parce que ouais. Le repas va se faire là ce soir. Mais il y a encore des machines, voilà. Avant, on faisait. C'est du thé en vrac, en fait. C'est des boîtes qui viennent du Havre. En fait, pareil, une machine qu'on a descendue du Havre. En fait, tout se remplit par le cul de la boîte, en fait. Là, elle est déjà sortie, la boîte.
Ah, d'accord.
Elle se remplit là, qu'elle passe derrière, et ensuite, ça, c'est sorti dessus. Ouais. En fait, le couvercle est là, la boîte. Hein.
Ouais.
C'est les boîtes qui sont remplies en fait, c'est en vrac ça.
Je les connais ces boîtes.
C'est ce qu'on faisait au Havre et la machine elle est là-bas.
D'accord.
Mais ça on peut pas y avoir malheureusement, j'ai bouché.
Bon donc tout ce qui est Lipton, il ne faut plus acheter.
Normalement, ouais. Et l'éléphant non plus, c'est fabriqué en Pologne.
Ah, parce que l'éléphant va continuer à sortir ?
Eh oui, bien sûr, il est fabriqué en Pologne, mais il est vendu qu'en France.
D'accord.
C'est la seule marque qui est vendue qu'en France, c'est l'éléphant. Il n'est pas vendu à l'étranger, il est vendu qu'en France, mais il est fabriqué en Pologne.
Te tuer.
Et vous allez faire quoi de tous ces arômes chimiques qui restent stockés là alors ? Vous allez les balancer ?
Bien
vous
sûr,
allez...
poubelle.
Hein ?
Bien sûr, ouais, la poubelle, ouais.
D'accord.
Bien sûr, on n'en veut plus ça, nous on veut faire des vraies plantes comme on faisait actuellement avant quoi. Mmh. Puis des produits chimiques. Hors de question. Alors, tout ça, ça partit à la poubelle. Bon, la plupart est partie déjà à la poubelle. Donc on va sortir, la pièce de théâtre est commencée, on m'a dit. Donc en fait, tout ce qu'on a vu tout au début, la fin de ligne qu'on a vu tout au début. Les fardeaux de 10, tout est transféré là-dessus, tout passe en haut. Quoi. Oui, ce que vous voyez,
c'est la ligne pour.
C'est la ligne qui transfère toute l'usine, qui va jusque de l'autre côté de l'usine. De l'autre côté, il y a un gros robot qu'on va voir qui récupère ces fardeaux, qui les met en palette.
Merci Jean-Marc pour cette visite.
De rien.
En tout cas. C'était
avec plaisir.
Au nom du business. Pognon roi, on envoie dans le décor des années de boulot et de mensonges à mon endroit sans le moindre remords. Y a pourtant le taf et le savoir-faire, tout est là pour continuer. La clé sous la lourde et la tête à l'envers. Mais ils n'ont pas fait assez de pognon sur mon dos. Et même si son salaire fait quelques quatre fois le mien, mon tout petit mini-chef a pourtant fait le sale boulot pour des actionnaires qui eux demain dormiront bien. On m'avait dit que patron du Unilever, ça rimait avec menteur. Aujourd'hui encore et plus que jamais, ils sortent d'une école dont ils sont très fiers, prêts à tout pour exister. What a manager, ils vendraient leur nez pour y arriver. Ils ont tout fait tout pour préparer la casse et que demain tout s'arrête. Pourtant ils font du fric à chaque minute qui passe. On marche sur la tête. Faut rien attendre de ces pourris, ces faux culs. Ils n'ont pas de sentiments, pas de cœur et pas de vie. Ils nous prennent de haut avec un air de m'as-tu vu. Pour avoir tout donné, c'est comme ça qu'on te dit merci. On m'avait dit que patron du Nil, ça rimait avec voleur. Aujourd'hui encore et plus que jamais, je peux le vérifier. On les a peu vus, les médias influents, les 10 heures de vérité. Soutenir la lutte, aurait-il peur du vent qui va bientôt tourner? Et même s'ils t'ont fait mettre un doigt dans la théière, la tête sous l'eau rayée, il faut rester fort, fier et solidaire, même si dégoûté. Aujourd'hui ils s'en vont nager vers d'autres eaux croupies, d'autres eaux bien troubles, ça pue la pénitence. Ils ont le pouvoir, mais un cerveau tout petit, et c'est à coup de trique qu'ils dirigent la France. On m'avait dit que patron du Nil, ça rimait avec branleur. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, je peux le vérifier. On m'avait dit que patron du Nil, ça rimait avec branleur. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, je peux le vérifier.
De Radio Zinzine, tu peux te présenter?
Didier,
le salaud.
Voilà le salaud de service pour un soir, voilà le temps d'une pièce.
Voilà.
Je dois dire que j'ai pris un certain plaisir à jouer le salaud.
Voilà. Ce soir, tout le monde était content.
Merci.
Hein, voilà. Et on voudrait.
D'être licencié.
Et on voudrait savoir un peu quel est le ressentiment de celui qui licenciait, de celui qui était propriétaire de l'usine et
plaisir.
Le représentant des actionnaires.
De licencier du monde, c'est un plaisir intense, je dirais, qui culmine quasiment à l'orgasme, quoi. Bon, je ne vous traduirai pas mes relations physiques les plus intimes, mais voilà.
Et cette manière de jeter les billets, de montrer les gens et de jeter les billets, est-ce que ça a été efficace?
Dans le premier temps, oui, mais il faut croire que non, puisqu'ils ont un peu résisté, quoi. Ils ont un petit peu résisté, et puis, bon, ben, pour le moment, ils ont un petit peu gagné.
Bon. Donc, et donc, dans... Alors, est-ce que c'était une prophétie où il a dit « je reviendrai » ? Donc, il est revenu une fois, il n'a pas réussi, mais est-ce qu'il va revenir ?
Je pense que vu la déculottée qu'il s'est prise, je crois pas qu'il reviendra. Bon, d'abord, il a été reclassé ailleurs, et puis...
mais est-ce que c'est pas la joie de la victoire qui vous fait croire cela ? Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Est-ce qu'il va pas revenir plus fort ?
Non, je pense qu'on lui a fait passer le goût de revenir. Donc, puisqu'on lui a retiré sa milice, il ne reviendra pas. Donc.
Bon, alors sur Fralib,
voilà,
mais ailleurs.
Ailleurs, mais bon, paix à l'âme de ceux qui l'auront comme patron. Hein,
parce que donc, effectivement, il y a quelqu'un qui a été reclassé ailleurs.
Eh ben, le
patron de Fralib.
Il a été, je ne sais plus dans quelle boîte il travaille, dans une autre région, sous d'autres cieux.
Bon, enfin, il n'est pas à Pôle emploi.
Non, ça m'étonnerait. Non. Il doit faire la misère aux gens qu'il a sous ses ordres. J'espère qu'il a un bon syndicat pour lui résister. Parce que...
Quel conseil tu pourrais donner aux autres personnes qui ont une délocalisation à faire?
Mais déjà, vérifier qu'ils n'aient pas, parmi leurs délégués, certains Olivier et certains Gérard, parce que c'est à tous les deux là, alors là, c'est mort.
Tu penses que c'est vraiment...
Ah oui, oui, ils ont été le cœur du, ils ont été le cœur du problème. Ils ont été deux épines profondément posées dans le pied. Aujourd'hui, ça a suppuré.
D'accord.
Voilà, donc après, j'espère qu'ils n'auront pas un syndicat trop fort, j'espère qu'ils n'auront pas trop de solidarité autour, et puis voilà, quoi.
Bon, bah. Bon, est-ce que tu regrettes d'avoir joué le salaud ?
Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce que j'ai même pris un certain plaisir à jouer ce salaud, parce que en tant que syndicaliste moi-même, si j'avais joué syndicaliste, ça n'aurait pas été marrant. Je veux dire, je me serais fait un peu chier. Alors que là, j'ai pris un plaisir, mais c'était un rôle de composition, et j'ai pris un plaisir, mais voilà. Phénoménal, quoi.
Alors, est-ce que tu penses que tu as été mal orienté à l'école quand tu étais petit, que tu aurais dû être patron au lieu d'être ouvrier ?
Je sais pas, je sais pas. Ben moi, je voulais m'orienter vers une seconde, m'orienter vers la sortie. Donc, je sais pas si j'étais mal orienté. J'aurais peut-être dû tenter une carrière d'acteur, je sais pas. Bon. Lui, c'est ma victime.
Ok, votre victime.
Je l'ai renvoyé deux fois. Ouais. Je l'ai licencié deux fois, une fois du Havre et une fois de Marseille. Bon, au Havre, c'était pas moi, c'était mon frère jumeau. Voilà. Comme il disait La Fontaine, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Voilà. Là, cette fois, c'est moi.
Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom déjà ?
Moi, c'est Joël. Bah, je viens du Havre une première fois. Bon, j'ai travaillé, ça va faire 37 ans que je suis dans la même boutique, c'est-à-dire aussi bien le Havre et Marseille. Alors, j'ai travaillé 20-25 ans au Havre. Et j'ai été muté en 98 pour licenciement. Et puis là, je subis un deuxième licenciement. Bon, la première fois, ça a été dur parce que quitter une famille de 1000 bornes, refaire une vie... repartir à zéro, reconnaître des gens, vous savez, Marseille, c'est pas, il faut s'adapter, il faut se... ça a été mentalité. Dur. Voilà, la mentalité, c'est pas la même, hein. C'est pas au contraire, maintenant on est bien. Hein.
Alors si je puis me permettre avec des guillemets, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix, hein, entre guillemets choix, hein, bah, de choix, partir du Havre à Marseille,
bah, hein. C'est-à-dire le choix, non, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire quand on a 42 ans, on a femme, enfant. On nous a accepté, on nous reprenait avec les mêmes avantages, les mêmes choses. Puis bon, soyons honnêtes, je veux dire, je suis bien tombé. Je veux dire, je parle question logement, question tout ça, je suis bien tombé. Même la région, ça, je peux pas le dire, le contraire. Mais bon, ça a été de partir comme ça, liquider. Bon, ça va, moi je suis parti avec les enfants. Hein.
Mais t'avais de la famille, t'avais peut-être des frères, oui, et oui, des sœurs, des
voilà,
parents.
C'est ça, parce que moi j'ai plus de parents. Voilà. Mais quand je suis parti, j'avais que mes frères. Et puis, ma femme, elle avait que sa mère. Et puis voilà, le problème, ça a été très dur pour elle. Les enfants un peu moins parce qu'ils allaient au lycée, au collège. Hein. Maintenant, j'ai une fille de 32 ans puis une de 27. Alors maintenant, bon, ça va, ils sont mariés, je suis tranquille de ce côté-là. Mais ça a été dur pendant... La motivation, ça a été parce qu'on nous reprenait avec tous les avantages. Hein.
Voilà. L'accueil des ouvriers de Gemelos.
Ça a été dur, je veux dire. Ça a été... un petit accrochage, les Marseillais contre les gens du Nord.
Vous avez été combien à venir du Havre ?
Une cinquantaine de couples à peu près. Après, moi, la chance que j'ai eue, je pars d'un HLM, j'ai un pavillon. Mes enfants sont vite adaptés, même plus vite que nous, on a eu peur pour eux, mais ils sont vite adaptés à tout. Et puis maintenant, quand je vois mes enfants qui sont mariés, j'ai des petits-enfants ici, moi, ma vie est faite ici. Mais la première année, des fois, on se dit, on fait quoi ? On remonte pas. Ça a été dur parce que quand vous quittez tout, et puis vous entendez un petit peu, en gros, vous les Normands, vous... Ouais. C'est pas être méchant, hein, je veux dire. Vous les Normands, vous prenez le travail et voilà.
Il parle quoi, tu ?
Voilà.
Voilà, puis c'est par le coin.
Voilà. Et moi, ça fait 16 ans que je suis là, je ne parle pas encore marseillais. Mais bon, ça c'est. Maintenant on est bien. Maintenant, ils comprennent, on est comme eux. On est comme eux, on a besoin de travailler, on est comme eux, on a besoin de vivre avec nos enfants, on est comme eux. Si demain on leur dit, la seule solution, c'est de venir travailler à, je sais pas, à 100 ou 200 km de chez eux. Il faudra qu'il prenne une décision, hein. Je sais pas, le gars qui a 40 ou 45 ans, bon, ou même qui a 50 ans, il lui reste plus que 5-6 ans à faire, bon, il va dire, bon, je vais les faire tranquille là-bas. Hein.
Ou en Pologne, par hasard.
Oui, non.
Ça, vous avez dit non.
En Pologne, non. En Pologne, moi, j'aurais bien voulu y aller. Non, mais honnêtement, j'aurais bien été, moi, comme ils ont fait ici, qu'ils nous laissent le choix, au bout de 2 mois ou au bout d'un mois, qu'on remonte. Parce que là, on avait la possibilité de... On était un petit peu à l'essai. Si ça ne nous plaisait pas, on remontait.
Si vous remontiez, vous perdiez votre travail.
Non, je perdais mon travail. Oui, non, mais c'est ça. Hein, j'étais au chômage et tout.
Et pourquoi, à cette époque-là, il n'y a pas eu de lutte au Havre?
Bah, disons, on s'est battu. Après, on s'est dit, on a obtenu ce qu'on voulait. Bon, la plupart des gens, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient au niveau maison et tout ça et tout. Et puis, ils avaient obtenu ou qu'ils sont de l'argent. Bon, après, voilà, ils disent stop. Ça.
Et on trouvait facilement du travail aussi, peut-être.
Voilà, c'est ça. Il y a quand même 16 ans, c'était plus facile. Mais bon, là, maintenant, moi, j'ai 57 ans. 57 ans aujourd'hui. Bon, il faut que je travaille encore un an. Merci. Non, pas aujourd'hui, mais d'ailleurs, quoi. Voilà. Mais je veux dire, j'ai plus qu'un an à travailler. Moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans. Moi, je me bats pour mon compte personnel. Je me bats parce que je crois à la lutte. Je bats parce que j'ai mes enfants derrière pour dire, leur montrer que c'est pas... Que c'est pas c'est pas en restant comme ça ou c'est pas en se battant qu'il faut se battre de toute façon d'une manière ou d'une autre, il faut se battre pour obtenir. C'est partout pareil. Et la preuve, moi je vais faire mon année ou mes 2 ans qui me restent à faire, tranquillo dans la scope. Tu vois, c'est mon but, c'est bon. Après, il faut être honnête, après les gens, c'est pas question d'hypocrite, mais les gens pensent un petit peu, il y a un moment on dit, bah tiens, moi j'ai plus que 2 ans à faire, moi bon, je vais me les faire à la scope et tout. Moi, je peux les faire au chômage, hein, mais c'est pas mon truc d'être au chômage. Ouais. Moi, j'ai le droit à 3 ans de chômage, je peux les faire. Je fais un an de chômage et tout. Avec ce que nous donne et tout, on peut toujours dire moi, je l'étale. Hein, c'est pas
mais quand
ça.
Même, vous êtes investi quand même dans la lutte. Donc, l'idée, c'était pas de dire je vais faire les années au chômage et attendre la retraite.
Ah non. Mais je veux dire par là que moi, je me bats, mais si je croyais pas à quelque chose, pour moi, je suis plus près de la retraite qu'autre chose. C'est ça que Puis je me bats pour faire comprendre aux jeunes que, bah voilà, si vous restez dans les deux pieds dans le même sabot et puis que vous ne bougez pas, vous faites bouffer de partout.
Dans une entreprise, les rapports de force, ils sont hiérarchisés par le contremaître, l'ingénieur, etc.
Oui,
comment tu imagines la reprise du boulot dans les 15 jours là?
J'espère qu'il va y avoir des responsables déjà parce qu'il y a des gens compétents chez nous, hein, aussi bien chez les Marseillais, aussi bien chez les Normands. Il y a des gens compétents dans tous les domaines. Après, s'il faut suivre une formation pour... moi, je suis opérateur régleur. S'il faut suivre une formation pour être opérateur mécanicien, bon, je suivrai la formation, puis je dirais, moi je suis capable d'être mécanicien, mais aide mécanicien. Hein.
Ouais.
Après, il faut laisser. Parce qu'il ne faut pas se dire, moi ça y est, maintenant j'ai le droit des formations, je suis mécanicien. Non. Mécanicien, ça ne s'apprend pas ça comme ça, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Hein. Ça s'apprend avec des années et tout. Après, bon, j'ai quand même des compétences dans la mécanique, j'ai quand même des compétences dans mon travail depuis 37 ans. Hein. Mmh, je parle dans mon domaine. Hein.
Ouais.
Après, bon, s'il faut être peintre ou plâtrier, je suis capable de le faire aussi, c'est ça que je veux dire. Non, hein, mais je veux dire, dans mon domaine, en bout de 37 ans, je pense avoir acquis quand même quelque chose. Mais ça, après, ça s'apprend en travaillant. Moi, j'ai commencé en tant que manutentionnaire. Hein. Après, j'ai été opérateur, après, j'étais cariste, après, j'ai été petit responsable pendant les vacances, après, j'étais au mélange. Après, j'étais en production. Après, j'étais aux emballages.
Et puis maintenant, tu es dans la lutte.
Et maintenant, je suis dans la lutte, voilà. Et puis, ça aussi,
c'est un développement de compétences.
Disons, il faut quand même croire à quelque chose, quand même. Hein. Je pense qu'on n'est pas dans la lutte comme ça pour dire on est des moutons, on suit. Non. Mais quand on voit les gens qui se battent, on ne peut pas faire autrement de dire oui, mais c'est beau ce qu'ils font, c'est bien, il faut le faire. Il faut amener un petit peu sa pierre. Il faut amener un petit peu sa pierre, amener un petit peu ses connaissances, amener... puis faire comprendre, excuse-moi, mais aux petits jeunes qui ont 30 ans, là, il dit, remets un peu la garde, parce que c'est pour vous qu'on se bat. Hein. La plupart des gens, on est quand même une bonne partie à avoir une moyenne de 50 ans, entre 50 et 60. Hein. Alors, et puis croyez-moi, si vous regardez les gens, c'est des gens-là qui se battent. Après, c'est plutôt pour eux qu'on 40 ans, 45, qu'on a encore au moins 20 ans à bosser.
Bravo pour cette lutte. Pour cette idée magnifique de SCOP avec tout ce qui s'ensuit et tout ce qui va être développé. Quoi. Bravo.
Et on est fiers de le montrer à tout le monde et on est fiers de dire aux gens qui ne croyaient pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Parce que aussi bien partout, aussi bien peut-être dans la belle famille, il y a des gens qui disent non, tu n'y arriveras jamais, non, pars avec tes sous, pars avec tout. Vous savez, quand on dit on a refusé quand même une grosse somme, pas la somme, mais on a refusé une grosse somme.
Bah, tu peux nous
voilà, voilà, c'est ça, voilà. On a refusé 90 000 euros.
Ah ouais.
Bon.
90 000 euros par, alors, par personne.
Voilà, hein. Oui, par personne. Après, on a dit. Que voilà. Non, non, mais on a refusé 90 000 euros.
Oui, mais vous avez gagné votre dignité. Et ça, ouais, c'est ça. Plus important que 90
oui,
000 euros.
Oui, c'est pour ça. Nous, ce qu'on voulait, les 90 000 euros, c'est bien. Mais et après, il y a le travail. Après, les jeunes, il faut qu'ils travaillent. Mais tout le monde a dit non. Hein. Alors, c'est beau, les 80 personnes à l'époque, hein, ou moins. Mais tout le monde a dit non, hein, ça a duré un quart d'heure, tant qu'on passait dans la pièce. Hein, il y avait tout.
Ah, vous êtes passé un par un.
On est passé un par un devant toute une petite assemblée d'Union Vert.
Ouais.
Papa, je vous en prie, on vous propose aussi. Non.
Oui.
Tac. Non. Et ça a fait vite. Hein. Et puis quand on voit le résultat maintenant, qu'on a gagné l'usine, qu'on a gagné notre scope qu'on va se battre, et puis qu'on a gagné aussi notre fierté, notre ouais. lutte, oh. et puis bon aussi. Le petit machin qu'on va toucher comme tout le monde, hein, c'est pour ça. Hein.
C'est ça qui est beau, moi c'est ça que j'ai entendu cet après-midi, c'est qu'il n'y avait pas tant de considération de savoir qu'est-ce qu'on va gagner financièrement, qu'est-ce qu'on va avoir comme quoi. Il y avait surtout de la considération sur la solidarité, qu'est-ce qu'on a montré comme exemple de solidarité, qu'est-ce qu'on a conquéri comme dignité et comme fierté. Et ça c'est important.
Une chose que j'aurais à dire, c'est vrai que sans la solidarité, on n'est peut-être pas là aujourd'hui. C'est vrai. Ça, les gens, mais c'est énorme, c'est là qu'on découvre les gens qui puissent donner, qui puissent. Moi j'ai vu un petit pépère, il a fait un petit chèque, et puis il dit, ça vous dérange pas de le mettre à la fin du mois, parce que j'ai. On a du mal de refuser.
Ouais.
Alors, on essaie de le refuser. Il me dit non, monsieur, ce que vous faites, c'est très beau. Alors, tenez, vous mettrez ça, mais vous mettrez un peu plus tard. On sert d'exemple. Maintenant, on est fiers. Quand on dit Fralib, je connais ton arme.
Oui, je voulais juste... c'est pas pour jeter la pierre. Hein. Ouais. Vous étiez 182 au départ.
Ouais.
Vous êtes 76 à l'arrivée, donc moins de la moitié quand même.
Ouais, hein.
Voilà. Et la description des pressions que tu nous as données, 90 000 euros, passer un par un, etc.
Voilà, ouais, ouais.
Je veux dire chapeau aux 76 quand même. Parce que...
bon, dans les 182, bon, il y a quand même une bonne partie de cadres, agents de maîtrise et tout ça et tout.
Ils ont été reclassés, oui.
Non, même pas. Il y en a qui sont partis avec les sous. Et donc, voilà.
Eux, ils avaient plus alors.
Oui. Non. Moi si, à l'époque, si je pouvais partir avec entre 100, 120 et 130.
Ah ouais.
Moi, avec l'ancienneté que j'ai, hein, je parle avec. L'ancienneté, hein, parce que j'ai 37 ans d'ancienneté. Bon, avec ça et tout, je pouvais partir avec 120, 130. Je suis pas parti, je suis resté, et puis voilà.
Bah, ça laisse imaginer l'argent qu'ils auraient gagné s'ils avaient réussi à faire leur pôle.
Mais puis bon, c'est en plus, quand on voit qu'on se bat contre eux, quand même des gros groupes, hein, bah, on a réussi à faire plier Émile Vert.
Ouais.
Parce que le slogan, c'était toujours le pot de terre contre le pot de fer. Mais le pot de fer, on a réussi à le faire plier. Si on pouvait le casser, on aurait bien aimé le casser. Mais bon, déjà, on le plie. Déjà, plier un groupe comme eux, c'est pas mal.
Bravo.
Voilà.
Merci.
Bravo, okay, en tout cas, merci.
Nice et cousine. Il y a des fois qu'il y a des gens qui, il y a des cas ou des événements dont on se souviendra toujours. De ses tout premiers jeux, de ses jours malheureux, de son premier tarpé, des copains de quartier et de son premier amour. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Je sens bien qu'il faudrait un peu plus se lâcher, un peu plus s'inventer, être plus motivé pour faire bouger son quartier. Il faut organiser une belle soirée, une belle tablée, une sono branchée, le ballet type commencé. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent tout à coup mieux dans sa vie? Est-ce le fruit du hasard ou est-ce un tour de magie? Un bon matin, tu te réveilles et tu te sens maillot, serait-ce le fait? Une fée qui serait venue dans la nuit? Si ouais, fils, sans bris, ce serait fils et
merveille, tout droit venu du paradis. Mais nous bouillons, c'est le soleil qui te dit salut, c'est midi. On a toujours raison de savourer le bon et de laisser le mauvais au pébron. On a toujours le choix, mais entre quoi et quoi? Vas-y, boulet, et l'avenir te le dira. Oui, à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Ici bas, on ne fait que passer, mais une trace, je crois qu'il faut laisser. C'est ça la classe, il ne faut pas l'oublier. Se surpasser, se dépasser, fait avancer. Ne pas se manquer d'un communiqué. Aimer rigoler, ne pas bloquer sur la monnaie. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi, je sens le doute s'installer. La jeunesse ne sait plus du tout à quel sens se vouer. Les élites occidentales sont complètement paumées. L'intégrisme se répand, le fascisme est à ses côtés. La guerre gagne du terrain, et les civils bien armés. Pour ma part, je suis pas serein, ça pourrait bien nous arriver. Je fais pas le prêcher, prêcher, je viens pas te casser les pieds. Je viens juste te rappeler que le monde est tel qu'on le fait. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus.
Olivier Le Berquier, délégué CGT Fralib.
Il y a presque 4 ans, jour pour jour, le 13 juillet 2010, on était présents sur le port de Marseille pour faire une haie d'honneur à nos 45 camarades de la réparation navale qui venaient de mener une lutte de 501 jours pour pouvoir continuer à travailler. Et je me souviens qu'entre le 28 septembre 2010, on nous interpellait sur la lutte qu'on allait entamer, puisque comme eux, on voulait conserver notre emploi et l'outil industriel sur le site. On ne savait pas encore qu'on allait carrément se le réapproprier. On disait, avec une île verte, ça ne durera pas 501 jours. Ça durera certainement beaucoup moins. À l'arrivée, on est passé à 500, on a passé les 1000, on a pointé jusqu'à 1500, on s'est arrêté en route. Mais bon, voilà, je voulais le souligner parce que voilà, la bataille elle a été longue, d'autres avant nous en ont mené des longues comme eux, d'autres un peu plus courtes comme les camarades de Pipa qui sont là, enfin la fabrique du Sud maintenant, et eux aussi ils ont gagné, donc comme quoi la lutte à paye on peut gagner. Quand on a gagné des choses, quand on a gagné la préemption des bâtiments et le rachat par la communauté urbaine de Marseille des bâtiments, certaines nationalisations des bâtiments et des terrains, certains, pas dire beaucoup, nous disaient qu'il fallait se contenter de ça, c'était déjà beaucoup, et puis qu'ils allaient nous aider à combler les trous dans la raquette, comme certains disaient, à prendre ce que Unis Le Vert avait déjà beaucoup donné, et grosso modo, à nous inciter à ce que ce soit les collectivités qui nous aident à construire la SCOP, donc les contribuables. Et nous, on disait, avant d'en arriver là, et qu'il y ait des aides qui puissent nous être données pour construire la SCOP, d'abord, il fallait qu'Unis Le Vert y paye, parce que c'est eux qui devaient payer. Ouais. Donc là aussi, on n'a rien gagné. Et là aussi, le 26 mai 2014, Unis Le Vert, il a payé. Et c'est eux qui vont payer la reprise de l'activité sur le site.
Bravo.
Et on compte aussi sur vous, de partout en France, pour nous aider à le gagner. Et vous avez un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer dans les luttes qu'on mène, en ayant un comportement de consommateur. Quand vous aurez le choix entre le tilleul, éléphant du Nil Vert, encore éléphant, mais on va rôder pour la récupérer, cette marque. Mais quand vous avez le choix entre celui-là qui vient d'Amérique latine, qui va au port d'Hambourg, qui traverse l'Allemagne 600 km pour se faire couper chez un copaqueur, qui repart à Katowice pour être conditionné et qui revient en France pour vous être proposé à la consommation, ou celui que nous on va faire ici, qu'on ira chercher à Villers-Baronnies qu'on amènera ici dans la ligne de coupe qu'on va remettre en place et qu'on va conditionner, bah là aussi vous pouvez avoir un rôle de consommateur et de contribuer. On va finir en chanson. Et c'est une chanson pour moi qui est importante parce qu'elle vient de chez moi. Elle a été créée dans mon pays, dans mon quartier, enfin un de mes quartiers, à Sokans. Et puis, elle a vraiment une valeur affective pour moi parce que voilà, mon papa il la chante très bien. Donc elle a vraiment une grosse valeur pour moi. Unilever, c'est fini. Scopti, c'est parti.
C'était, avec les Fralib, la victoire de la générosité et de la fraternité. Première partie. Une émission proposée par Radio Zinzine. Vous pouvez la retrouver ainsi que sa deuxième partie sur radiozinzine.org ainsi que sur le site esgourde.net. Aux interviews, Jean-Jacques et Pierrot. À la prise de son, l'illustration sonore et la réalisation, Pierrot. Musique. Les éléphants des Berruriers Noirs pour le générique. Los Fralibos est le titre éponyme. Red Lézard avec Univoleur. Massilia Sound System et Yo des Fois. Michel Fugain avec Le Chiffon Rouge. No One Is Innocent et Come On pour le présent morceau. Merci et bravo à tous les Fralibiens et Fralibiennes. longue vie à leur Scopti. A bientôt sur les ondes de Radio Zinzine. Portez-vous bien, salut!
Push me.